Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, si tu étais déjà là pendant les bandes continues, tu as entendu que pour faire preuve d'amitié, il fallait sucer ton pote, et c'est une très bonne idée quand même à un moment donné, ça évite les guerres aussi il paraît. Et donc sinon, c'est la causerie au 102.2 sur radiocanu.org, et ce soir à la technique, nous avons Clara qui est de retour.
Bonsoir.
Et on est trop contents.
Ça te fout en délire, c'est ouais. Incroyable. C'est
notre qui fait ça.
C'est notre cérémonie de clôture à nous. Voilà. Et dans les studios, on a Jean-Yves.
Bonsoir et Fab.
Bonsoir. Voilà, alors que vous dire, qu'on est content d'être là et qu'il pleut très très fort sur Lyon, mais ça va. Et que sinon, moi, il va falloir me relancer parce que c'est moi qui vais démarrer.
Mais c'est tout à fait ça, tu t'emballes.
Et ben j'avais oublié que c'était moi après. Excusez-nous, on n'est pas tout à fait au point. Après 13 ans, 12 ans,
ouais,
un truc comme ça.
Ouais,
vas-y, c'est parti.
Sinon, ça va.
Ouais,
allez, donc Fab, toi, tu vas revenir sur le déni des complotistes, ou en tout cas d'une partie
ouais.
Des complotistes.
Ah oui, parce que j'ai pas...
parce que la sphère est tellement large.
Ouais, il arrive un moment. Alors moi, j'avais envie ce soir de revenir sur deux informations qui tournent sur les réseaux sociaux en particulier et qui sont une belle démonstration de la capacité de l'humain à se rassurer avec du vide. Alors oui, j'ai découvert X. Le truc de Elon Musk. Ouais. Et alors, faut pas y aller. Hein. Alors bon.
Pourquoi tu t'infliges ça?
Mais parce que je suis allé chercher pour la chronique.
Amis auditeurs, amis auditrices, vous vous rendez compte quand même de la mise en danger qu'il fait pour vous?
Voilà. C'est gentil quand même. Alors bon, on le savait déjà avec les religions et les croyances, hein, mais là, c'est plus de climato-dénialisme que je vais parler, dont je vais parler, et de complotisme, tout simplement, qui détourne la science pour mieux dire n'importe quoi. Alors on va commencer par le fait que la Terre est un pain de mie. Eh oui, parce que là, vous ne le saviez pas, mais la Terre est un pain de mie. Alors ces derniers temps, pour expliquer que nous ayons traversé un été, un des étés les plus chauds jamais enregistrés ces 5 dernières années, oui, parce que ça fait 58 quand même qu'on a l'été le plus chaud, donc ouais, ça va dire que ça monte graduellement. Nos chers climato-dénialistes, alors oui, je ne parle pas de climato-sceptique.
J'allais te demander.
Voilà, parce qu'en fait, être sceptique, ça veut dire interroger la science. Dénialiste, ça veut dire dénier, c'est-à-dire dire ça n'existe pas, ou on fait ça pour nous vendre des voitures électriques, bon, voilà tout ça quoi. Donc ils ont donc trouvé quand même une nouvelle explication. C'est parce que le Soleil est à son apogée de gonflement et de son cycle. Et donc la Terre, tel un pain de mie dans un toaster, serait plus chaude selon eux. Voilà, okay. C'est QFD. Non mais je l'ai vraiment vu écrire comme ça. C'est comme dans un toaster. Alors non, pas vraiment.
Hein vraiment?
Ah oui,
quelqu'un
oui,
avait écrit.
Il y a quelqu'un qui a écrit. C'est évident, c'est comme dans un toaster.
Ok.
Oui. Que moi j'ai dit. Pourquoi pas. Alors j'aurais pu en rire longtemps quand même si je n'avais pas vu cela partagé de plus en plus, parce que ce qui m'a inquiété, vous savez, vous pouvez voir le nombre de partages sur les réseaux sociaux, et quand vous voyez par exemple que l'idée que la Terre c'est comme un pain de mie s'est partagée jusqu'à quand même 157 000 fois. Vous vous dites, ça fait beaucoup de monde. C'est pas une personne dans son coin. Gros, c'est un grand PMU. Alors, puisqu'il faut expliquer, je vais tenter de dire en quoi ce qui est affirmé est totalement idiot, pardon de le dire, mais surtout, pourquoi c'est nier l'évidence. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Donc, je vais remercier au passage le site Trust My Science, parce que je suis allé leur piquer des données et quelques petites rectifications scientifiques. Donc oui, le Soleil, il a des cycles. Bah, c'est connu depuis des dizaines d'années, plus précisément depuis à peu près les années 30, hein, pour vous dire, c'est là qu'on a commencé à se dire, tiens, c'est marrant, il y a des cycles solaires. Et on sait même que de combien de temps sont ces cycles. Pour savoir quand le soleil gonfle un peu, c'est simple, plus il gonfle, plus il y a de taches de solaire sur sa surface. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Et bien, tout simplement parce que la surface, elle se refroidit un peu, vu qu'elle s'éloigne du centre du soleil, il gonfle. Mmh. Et donc, en fait, vous avez des taches qui apparaissent, parce que les taches, c'est des endroits un petit peu moins chauds. Alors, on va relativiser. Hein. Quand on dit un tout petit peu moins chaud, c'est pas beaucoup moins, parce qu'on est dans des milliers de degrés quand même. Hein, donc,
oui, hein, ça reste assez bouillant.
C'est un gros toaster. donc, le soleil, il traverse des cycles d'activité, et on les connaît maintenant, parce qu'on les a mesurés, de 11 ans. Alors, plus précisément, c'est 11 ans, 2 semaines et 12 heures. Voilà. Faisons ce que vous voulez, mais on va dire 11 ans, hein, c'est très bien. Donc, c'est lié en fait à un processus magnétique complexe qu'on appelle la dynamo solaire. Et je ne vais pas m'amuser à vous l'expliquer ce soir, vous irez chercher, parce que c'est très très complexe, hein, vraiment. Mais il faut avoir fait un petit peu d'études pour arriver à faire les équations. Et après, pour le comprendre, il faut avoir un gars qui a fait des études qui vous le dit, hein, parce que c'est compliqué. Donc, au début du dernier cycle, c'était il y a 10 ans. Voilà. Donc l'activité solaire était à son niveau le plus bas. Les taches solaires étaient donc rares, comme vous l'aurez compris. Cette activité s'est, comme prévu, intensifiée, atteignant au début de son pic en juillet 2024. Voilà. Donc on arrive là au top de l'activité solaire. Les prévisions étaient d'avoir environ 115 taches solaires qu'on pourrait compter. Et paf, en observant, on a trouvé deux fois plus. Oh, pas d'inquiétude, hein, c'est pas grave, c'est juste que on s'est dit, tiens, on s'est peut-être un petit peu trop linéarisé, c'était peut-être pas aussi linéaire que prévu, vous voyez, mais il n'y a rien de grave. Hein. Alors on se calme, on se détend, si c'est plus fort que prévu, on est loin d'une explosion du soleil ou d'un rayonnement infrarouge énorme et UV plus puissant. Pas du tout, hein, parce qu'on mesure les rayonnements. Alors, amis climato-dénialistes, il y a un truc qui s'appelle les panneaux photovoltaïques. Si les UV augmentent d'un coup énormément, ils grillent. Donc s'ils ne grillent pas, c'est que ça va. Vous voyez, on les mesure pas avec plein d'autres objets hein, comme ça. Donc tout va bien. Donc ce qui augmente, en fait, c'est surtout les vents solaires. Parce que vous savez qu'en fait, quand le soleil gonfle, il a tendance à perdre de la matière et ça les envoie dans le vide intersidéral. Et puis des fois, ça arrive jusqu'à la Terre. Et ça donne des aurores boréales. C'est pour ça qu'en ce moment, on a un pic d'aurores boréales. Ça, tout le monde suit, pic solaire, pic d'aurore boréale. C'est à peu près le seul truc que ça fait sur Terre, c'est des aurores boréales. Bon, ça peut griller des satellites aussi, mais ça c'est un petit détail. Autrement dit, vu qu'on est quand même extrêmement loin du Soleil, hein, je vous le rappelle, je ne vais pas vous refaire l'émission de Georges sur les distances, mais vous irez l'écouter, le rayonnement, il varie extrêmement peu, parce qu'on est très loin, c'est-à-dire que voilà, c'est pas une variation énorme, voire c'est même un pouillème, hein, comme ils disent. Et donc ça n'a aucune incidence, mais alors aucune, sur les températures de la planète. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on n'est pas dans un toaster. Non mais, faut vous rassurer les gens, parce qu'ils croyaient que c'était du pain de mie, moi ça m'inquiétait. Sauf qu'on a des penseurs comme Onfray pour l'extrême droite, Pelletier pour les anarchistes, Alain Minc pour les ultralibéraux, et autres qui font des textes laissant penser que le dérèglement climatique ne serait pas anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines, et que donc c'est repris par les climato-dénialistes. Parce qu'ils disent, s'il y a des gens intelligents qu'on voit à la télé qui le disent, ça doit forcément... Dans ma phrase, il y a un truc faux. Hein. Gens intelligents qu'on voit à la télé. Et voilà. ouais, ça va.
T'es caricatural.
Volontairement. J'ai envie d'être comme eux. Okay. Non, mais honnêtement, ils se disent, tiens, ces gens, ils ont la parole, machin et tout, on les voit. Donc voilà. Et il ne faut pas oublier que dans les dernières études d'opinion, notamment une étude qui a été faite pour l'Institut Copernicus, qui est celle qui surveille, vous savez, qui a commandé une étude sur 30 000 personnes. Sur 30 000 personnes, ça commence à faire une étude assez large. 46% des Français sont climato-dénialistes et disent que donc le réchauffement climatique n'est pas lié à l'activité humaine. Tout va bien. Vous pouvez vous moquer des Américains, hein, on n'est pas mieux qu'eux. Donc voilà, donc en fait, eux, ils disent un truc, vous voyez, c'est pas nous, c'est le soleil. Oui, bon voilà, c'est facile comme ça. Le problème, c'est que ces gens, dans le déni, ont tendance du coup à voter et à demander à être dirigés par des conservateurs et autres réactionnaires. Parce que si ça n'avait que l'incidence de se dire qu'ils se disaient ça, c'est pas grave, mais c'est que ça a une incidence politique, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui a été fait et qui a été démontré qu'en fait, plus on est climato-dénialiste et plus on se rapproche de l'extrême droite, en fait, pour être très clair. Ce qui a pour effet, en fait, de ralentir globalement les efforts pourtant incontournables et plus que nécessaires à faire pour espérer continuer à pouvoir tout simplement vivre sur cette planète. D'ailleurs, on a pu voir aussi Musk, oui, parce que comme j'étais sur X, voilà, partager sur son réseau des courbes pour aller dans le sens d'un soleil en surchauffe. Alors, ça n'existe pas le soleil en surchauffe, hein, on va être très clair, c'est une étoile. Donc, une étoile, ça chauffe, ça meurt, ça vit, ça explose. Tout ça, pareil, un jour, je vous l'avais expliqué dans le cycle des étoiles. Moi, je vous invite juste à vous dire, c'est une étoile, le soleil, comme les autres étoiles. Donc, il a des cycles. Un jour, il va exploser. On sera plus là, hein, normalement, sauf si vous vivez encore 2 milliards d'années. Sauf que, en fait, le cycle du soleil, il est de 11 ans. Je vous le rappelle, ces croyants essaient de nous faire croire qu'il y a 11 ans, on avait donc froid. Mmh. Donc, oui, parce qu'on sait que c'est 11 ans. Donc là, ça va redescendre d'ailleurs, hein, je vous le dis, là, dans les 11 ans qui viennent, ça redescend. Et donc le climat, il se refroidissait à l'époque. Sauf qu'en fait, toutes les données démontrent le contraire. Hein.
Oui, voilà. On peut faire le calcul vite fait, hein. 11 ans, c'était 2013, quoi.
Voilà, donc on savait déjà, on avait déjà mesuré la température il y a 11 ans. Donc décidément, hein, c'est quand même chiant les sciences, parce que ça empêche de trouver des réponses simplistes. Mmh. Mais donc non, ce n'est pas lié au soleil, voilà. Mmh. Et puis en baladant, j'ai croisé un autre truc.
Tu fréquentes de mauvais endroits.
Ouais, mais il faut aller voir des trucs comme ça.
C'est pas faux.
C'est aussi intéressant de voir ce qui circule.
Ouais.
Alors il circule sur le net, et pas que d'ailleurs, parce qu'a priori ça a été repris dans des journaux pas sérieux, je vous rassure. Une soi-disant info surprenante. Et ça a été aussi repris dans une émission de Fox News aux États-Unis. Dans la nuit du 4 septembre, attention, je vais essayer de vous la faire façon un peu. Dans la nuit du 4 septembre, et grâce à un puissant laser, les USA, oui, c'est toujours les USA, auraient détruit un astéroïde au-dessus des Philippines en tirant depuis une base secrète située près de Tucson, en Arizona. Ouais. Ça sonne bien, hein, c'est joli. Ça fait un super scénario de film ou de série. Hein, je pense que ça va
on avoir. A tous les bons protagonistes. Voilà. Les États-Unis, ouais. L'Arizona.
L'Arizona.
Il y a toujours un peu un truc comme ça, l'Arizona, quoi, tu vois. Donc vraiment, non, on a tout. Hein. Enfin,
t'as tout ce qu'il faut. Alors, c'est un beau scénario, mais en fait, en réalité, on notera quand même que si un laser pourrait tirer sur des milliers de kilomètres, hein, parce que quand même, Arizona, Philippines, au-dessus des Philippines, ça fait beaucoup de kilomètres.
Oui, ils ont pas
puis la Terre est ronde.
Ils
donc
ils n'ont pas tiré à ras de l'eau.
Non,
ils ont dû tirer très loin
Voilà. Et puis je vous rappelle que la Terre est ronde, donc ça pose problème pour tirer droit en partant de l'Arizona vers les Philippines. C'est déjà assez fou, mais en plus, il arrive à détruire une météorite en dehors de l'atmosphère, et le tout, sans que personne ne le voit, parce que évidemment, c'est un laser invisible. Et sans baisse de la capacité énergétique des USA au moment du tir. Parce que franchement, pour faire un laser de cette puissance-là, ouais, vaut de la puissance. Hein. Donc voilà. Bon, ok, alors admettons. Non.
Ouais, mais alors, si je me souviens bien, à l'époque, l'homme invisible, on le remarquait quand il s'habillait. Est-ce qu'ils l'ont vu quand le laser s'est peut-être habillé après qu'il a été tiré?
C'est peut-être ça. Je sais pas. Non, mais c'est drôle, presque.
C'est
drôle.
Non, mais c'est. En fait, on a envie de rire, et en même temps, des gens qui croient toutes ces choses-là.
Alors, juste l'info, elle a été partagée 237 000 fois, hein, donc c'est quand même pas rien.
Quand on partage,
ça veut dire qu'on y croit. Et vous savez que chaque personne qui partage un post, généralement, a 13 suiveurs. Donc vous imaginez le nombre de personnes que ça a touché, 13 fois, 237 000 fois. Donc c'est pas rien en fait. Hein, voilà. Donc en fait c'est une pure fake news, hein, complotiste, on va être très clair, qui vient d'un mélange des infos publiées par la NASA et l'ESA. Alors l'ESA c'est l'Europe. Hein. La NASA c'est les États-Unis, mm-hmm. L'ESA c'est l'Europe. Dans les faits, en fait, il y a bien un astéroïde. Alors son petit nom hein, d'ailleurs, parce qu'on donne des petits noms aux astéroïdes, c'est 2024 RW1. Voilà. Mmh. Il a été détecté le 4 septembre par, et en plus on sait qui c'est parce que c'est elle qui a donné le nom, par Jacqueline Fezekas, voilà, du Catalina Sky Survey, donc autrement dit le centre d'observation et de surveillance du ciel, qui est donc financé par la NASA et qui est situé près de Tucson, en Arizona. Et son boulot c'est dédié de suivre et de cataloguer les objets proches de la Terre. Voilà. Et ben voilà, maintenant vous savez d'où sort la base secrète américaine en Arizona, qui donc est une base secrète financée par la NASA que tout le monde connaît et où il y a une dame qui met des noms à des astéroïdes. Donc c'est ni une base et c'est ni secret en fait, hein, parce que c'est un laboratoire et c'est pas une base et c'est pas militaire en gros. Et c'est pas secret parce qu'en fait elle a même une adresse, hein, donc vous pouvez aller la visiter si vous voulez, parce qu'il y a des visites. Et tous les jours de 8h à 18h, c'est visitable. Voilà, vous pouvez y aller. Alors pour information, c'est seulement le 9e astéroïde, hein, dont la trajectoire a été prédite avec précision avant l'impact, comme le souligne la publication de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est-à-dire que ça fait pas très longtemps qu'on arrive à choper des astéroïdes avant qu'ils tombent. Le premier à avoir été détecté avant son entrée dans l'atmosphère terrestre, ça date de 2008. Voilà. Donc oui, parce qu'en fait, depuis quelques années, les astronomes essaient quand même de prévoir si un objet céleste approche de la planète un peu vite ou un peu gros. Vous voyez, c'est voilà. Parce que disons que comme eux, ils savent que les dinosaures ont très mal supporté la rencontre entre la planète et une météorite importante, ils ont l'idée que ce serait quand même pas mal de l'éviter à l'être humain. Voilà, tout simplement.
Ce qui en soit est plutôt louable.
Ouais, c'est plutôt cool, hein, je veux dire, ils scrutent pas le ciel juste pour le plaisir. Et en fait, après la détection, des calculs de trajectoire ont été faits, et figurez-vous que 2024 RW1, de son petit nom, a pénétré l'atmosphère terrestre le 4 septembre dans la soirée, vers 18h45, heure de France, hein, je précise, au-dessus de l'île Luzon, aux Philippines. Okay. Voilà, bah, c'était là qu'on avait prévu qu'il rentrerait, donc ça tombe plutôt bien, ça avait marché. Mais il n'a pas été détruit par le laser de la mort qui tue, de l'étoile noire ou de l'Empire, hein, tout ça. Non, 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 non. Il s'est tout simplement désintégré. Chut, voilà, et ça a fait une étoile filante. Voilà, c'est cool, on a fait un vœu, c'était sympa. Il faut dire qu'il aurait quand même atteint la Terre à une vitesse de 17,6 km par seconde, soit 63 360 km/h. C'est vite, c'est rapide, pour être clair. Et comme on savait qu'il mesurait environ un mètre de diamètre, eh ben, il n'avait rien à craindre parce qu'il allait tranquillement se détruire dans l'atmosphère. Voilà. Donc l'exploit, par contre, parce qu'il y a vraiment un exploit scientifique derrière, il vient du fait qu'avec les nouveaux instruments de mesure et l'augmentation des puissances de calcul, on a réussi, et il a été possible, non seulement de détecter cet objet très petit, parce qu'un mètre de diamètre, c'est petit, hein. Je vous rappelle, à l'échelle de je rappelle qu'on est à l'échelle de la Terre, c'est tout petit, hein, voilà. Mais en prime, de suivre avec précision cet objet et de pouvoir prédire où il allait rentrer dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas besoin de laser, hein, pour se dire qu'on a là une vraie démonstration du génie humain. Le truc maintenant, c'est d'arriver, comme le soulignent l'ESA et la NASA, à les détecter au moins 48 heures avant. Parce que là, en l'occurrence, ça a été détecté 7 heures avant. Donc ça fait un peu court, hein, voilà. Parce que soyons clairs, hein, si le petit, là, il avait été un peu plus gros, bah, en fait, on serait déjà plus vraiment là pour en parler. Tout simplement. Et voilà. On serait en train de se dire, pas rien, en fait, on serait mort.
Oui.
Car le délai entre la détection et son entrée dans l'atmosphère aurait été un peu trop court pour intervenir. Juste comme ça, c'est aussi pour dire que les films américains, ça reste des films américains, ou les films coréens aussi d'ailleurs, parce qu'ils le font aussi beaucoup. Non, on peut pas en 6 heures programmer une tête nucléaire qui va partir détruire l'astéroïde. Ça marche pas. Hein, et voilà. Donc non, en fait, ça aurait pas fonctionné. Qu'on a quand même inventé, on n'a toujours pas inventé le super laser de la mort qui tue, capable de tirer à des milliers de kilomètres, bah, va falloir qu'on apprenne à les détecter un peu plus tôt, parce que ça, sinon ça va pas bien marcher. Mais honnêtement, c'est quand même assez génial de ce qu'elle est arrivée à faire, d'ailleurs, cette dame, enfin cette scientifique, et Jacqueline Fazekas, et son équipe d'ailleurs, et honnêtement, c'est un bel exploit, mais ça n'a rien à voir avec le complot du laser intergalactique. Voilà.
Oui, et en même temps, en fait, c'est ça qui est toujours fou dans leur truc, enfin pas fou.
Bah, c'est que ça repose sur une base scientifique.
C'est que ça repose toujours.
Mais détourné.
Ouais, et même pas tant scientifique que ça, en tout cas.
Ouais, une information scientifique.
Il y a une information scientifique, ok, c'est l'Arizona, il y a. Astéroïde, Thaïlande, non Thaïlande, si Thaïlande.
Philippines,
pardon. Philippines, ok, on retrouve les éléments, mais pas l'info, quoi. En fait, c'est ça qui est fou, quoi.
Ben, c'est pour ça, ce qui est fascinant, c'est qu'ils brodent quelque chose autour, finalement, d'informations qui sont accessibles, qui sont facilement accessibles. Moi, j'ai pas eu à chercher 50 ans, hein, pour trouver tout ça. J'ai fait 4-5 sites de cosmologie, c'est-à-dire de gens qui étudient l'espace. J'ai vu effectivement qu'ils parlaient de ça en disant, bah tiens, c'est un sacré exploit et tout, parce que eux, ils se félicitaient justement d'avoir réussi à le voir suffisamment tôt, ce qui était un peu la première fois, ils étaient contents. Mais par contre, non, il n'y a pas de laser, il n'y a rien, tout ça et tout. Enfin, voilà. Et surtout, il y a des gens aux Philippines qui ont filmé l'étoile filante en question. Donc, on a de A à Z l'information.
Oui, oui.
C'est-à-dire que vous pouvez retrouver sur Internet le moment où il rentre dans l'atmosphère, où il y a des gens qui filment, et qui filment d'ailleurs en infrarouge parce qu'il fait encore jour, et qui disent, ah bah tiens, c'est là, on le voit passer, d'ailleurs, voilà, et puis c'est tout, quoi. Mais
oui, et en même temps, encore aujourd'hui, on a des gens qui continuent de croire que on n'a jamais posé le pied sur la Lune, enfin, d'ailleurs, moi je l'ai
Il y a aussi des gens qui croient qu'on est déjà allé sur Mars parce qu'on a trouvé de l'eau sous la surface,
et
que c'est stocké par l'armée américaine, donc.
En fait, c'est ouf, quoi. Enfin, c'est vrai.
Oui, moi, j'ai un peu peur des fois. Alors, pourquoi on prend le temps de débunker tout ça? Parce que souvent, on me dit, mais pourquoi tu te fais du mal comme ça, aller voir? Pourquoi tu prends le temps dans la causerie de parler de ça? Alors déjà, je vous parle de ça parce que ça permet de parler de science aussi, hein, à travers le débunkage. On aurait pu quand même parler un peu de science, c'était cool. Et puis souvent, quand même, ça sert pas à rien de s'acharner sur les fausses informations, contrairement à ce qu'on croit. C'est quand même, à un moment donné, on vit dans une période où les fausses infos, ça pullule et c'est partout. Et si on se dit qu'il faut arrêter, que c'est pas la peine, que ça sert à rien, bah en fait, il faut aussi arrêter de militer pour un monde meilleur parce que c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on part du principe qu'on ne peut pas essayer de raisonner les personnes qui sont en face de nous. Et moi, je n'aime pas cette idée-là. J'aime pas l'idée que, bah, en fait, on puisse pas échanger pour essayer de trouver ensemble des terrains communs qui nous permettent d'être un peu plus rationnels. Voilà. Donc, accepter. Par exemple, que le fascisme s'installe, parce que c'est comme ça. Bah, je pense que si on dit ça comme ça, il y a des tas d'antifa qui vont dire oh, mais tu peux pas dire ça, faut lutter contre le fascisme. Bah, en fait, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut lutter aussi contre bah, le détournement des sciences, contre les parareligions, contre tout ça, parce qu'en fait, en réalité, ça aide pas l'humanité, ça la ralentit. Mmh. Donc, laisser les gens s'embourber dans la pensée magique et les religions, et se dire, bah, c'est comme ça. Bah, en fait, pour moi, c'est un peu baisser les armes au mauvais moment, en fait. Parce que non, il faut pas les laisser, justement, s'embourber dans ce truc-là. Parce que, on sait où ça mène. Parce que généralement, les gens qui aiment la pensée facile, ils finissent toujours par aimer l'homme providentiel, mmh, ou la femme providentielle. Ils aiment toujours les réponses politiques faciles. Et on sait vers quoi ça nous mène. Donc, à un moment donné, tout est lié. En fait, je suis peut-être dans le fond, hein, personnellement, mais je reste persuadé que c'est en confrontant les idées, en amenant des faits, en titillant la raison, que l'on arrive à faire douter évoluer les humains. Je suis désolé. Donc, voilà. Donc oui, pour moi, remettre un peu de science et de raison dans toutes ces affirmations, c'est aussi être très politique finalement, et c'est pas uniquement juste pour le plaisir de, c'est aussi faire de la politique, c'est refuser de céder, continuer d'espérer, et qui sait, peut-être aider un peu à évoluer dans le bon sens, ou pas, mais au moins j'aurais essayé. Voilà.
Mais tu as bien raison, et effectivement, et en même temps, après, ça m'interroge aussi sur nos milieux. Enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, quand on a fait nos premières émissions astronomiques, il y a quand même un auditeur ou une auditrice de Radio Canu qui avait dit prochaine émission, l'enculage de mouches sur la Lune, ou je sais plus quoi.
Il faut un gros télescope pour l'observer.
Mais ce qui démontre aussi que même dans les milieux alternaux, rebelles, vous mettez n'importe quel mot que vous voulez, tant que c'est super révolutionnaire de la mort qui tue, bah, en fait, la science, elle a vachement reculé aussi, en fait. Ou en tout cas
le rapport à la science,
mais parce que, et en même temps, enfin, je veux dire, dans nos milieux, on est toujours à dire ah, t'as pas lu ça, et en fait c'est toujours de la grande lecture de penseurs anard ou coco ou tout ce que vous voulez. Par contre, on parle jamais de science, en fait. Mais vraiment, on en parle, mais enfin,
il y a eu une méfiance,
dans souvenir très peu. Alors après,
il y a eu une méfiance historique, parce que qu'on le veuille ou non, le progrès a été confondu avec la science.
Oui, oui.
Il y a plein de choses qui ont été mélangées à une époque, même dans les pensées révolutionnaires, voilà, parce que on s'est dit bah oui, le progrès la science aide le progrès. Enfin, en fait, les sciences, parce que je vais pas dire là, mais les sciences, parce que la science c'est un peu religion, mais c'est les sciences en général, en fait, c'est ce que l'humain est capable de produire pour comprendre. Enfin, c'est que ça. Il faut arrêter de mettre autre chose que ça, parce qu'en fait c'est ça. Et une fois que l'humain il a compris, bah, il peut essayer de corriger ou essayer d'éviter. Voilà. C'est ça, en fait, les sciences, ça sert à ça. Et c'est marrant de voir dans nos milieux justement énormément de gens utiliser les sciences sociales, mm-hmm, qui sont souvent contestées parce qu'on dit bah, il y a des fois c'est un peu limite sur les bases, sur machin et tout ça. Et moi je suis pas contre du tout les sciences sociales, je trouve ça très bien. Et je fais pas la science dure, la science molle, j'aime pas du tout cette notion là, mais enfin, j'en avais parlé une fois. Mais et voilà, je veux dire, depuis j'ai un peu revu mon jugement, j'admets. Mais par contre, c'est marrant que les sciences sociales soient acceptées aussi facilement, mmh, alors que la science, les autres sciences, bah, on a toujours un doute. C'est quand, par exemple, on vient avec quelque chose, je sais pas moi, la vaccination par exemple, et qu'on explique, on dit bah voilà, en fait, alors attention, hein, c'est pas pour autant qu'on va défendre les big pharma,
c'est non,
pas
mais
pour
autant, oui, c'est ça.
Voilà, on a déjà parlé ici, on en reparlera.
La science, c'est de la nuance.
Mais les sciences, c'est comprendre. Et en fait, bah, y a des gens qui trouvent un moyen d'éviter une maladie par la vaccination. Ouais. Alors ils arrivent comme ça, ils disent bah voilà, on pourrait le faire par la vaccination. Et en fait, la première réponse qu'on a en face souvent, c'est oui, mais ça c'est pour enrichir Big Pharma. Et en fait, c'est là qu'on se trompe, ouais, parce qu'en réalité, oui, ça sauve des vies, en fait. Alors qu'après, il faille interroger le système capitaliste, d'ailleurs le détruire, hein, pas que l'interroger, et qu'il faille le dépasser et faire autre chose, pas de problème. Mais le problème, c'est que moi, je veux pas qu'on jette l'eau avec le bébé avec l'eau du bain.
Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on
enlève Big Pharma qu'on enlève la vaccination.
C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'on confond science, capitalisme, entreprise, oui, bénéfice, privé, en fait,
le vrai problème aujourd'hui qu'on a, pour être très concret, c'est que 95% des découvertes scientifiques sont faites dans un cadre capitaliste par des multinationales, oui, par des start-up ou par des trucs comme ça. Ça, c'est un réel problème. Et ça s'interroge. Moi, je suis le premier à dire, il faut interroger ce modèle-là. Il faut même faire en sorte qu'on sorte de ce modèle-là rapidement. Et il faut qu'on crée des pôles publics, il faut des choses comme ça, parce qu'on a besoin que justement les découvertes appartiennent à l'humanité et pas appartiennent à des brevets ou des choses comme ça. Pas de souci avec ça. Par contre, c'est pas pour autant que ce qui est découvert est faux. Ou que c'est pas pour autant que ce qui est découvert pose problème. Et c'est ça le souci. Et notamment en ce moment, on a un réel débat profond sur l'espace. Et j'avais fait un truc sur l'espace, entre la différence entre exploration et conquête. Aujourd'hui, on est repassé du côté conquête par des capitalistes. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui les Musk, on a l'autre dame Bezos, tout ça et tout.
Sur le truc,
voilà, qui en fait font de la conquête viriliste de l'espace, qui font des trucs complètement ridicules.
Mais à leur seul bénéfice, en fait.
Oui, et qui servent à rien, je veux dire. Faire sortir des gens en scaphandre dans l'espace juste pour qu'ils voient ce que c'est que de flotter en apesanteur, c'est complètement idiot. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a, à part polluer pour polluer, ça n'a pas d'intérêt scientifique, ça n'a pas d'intérêt de connaissance, ça n'a rien. Sauf que le problème, c'est qu'on commence à amalgamer tout ça et à dire, bah, du coup, l'ISS ne sert à rien. Sauf que c'est pas la même chose, parce que l'ISS, tout ce qu'elle produit, c'est produit à titre en droit libre. Donc en fait, c'est pour l'humanité, ça appartient à l'humanité, et c'est pas du tout la même approche, parce qu'en réalité, oui, il y a des gens dans l'ISS, mais eux, ils font des expériences, ces expériences sont envoyées aux scientifiques du monde entier, elles sont accessibles, c'est pas du tout la même logique, c'est pas voilà. Le problème, c'est que encore une fois, parce qu'on a quelques crétins milliardaires destructeurs d'un côté, on va aller jeter tout avec l'eau du bain en disant mais tout le reste ça sert à rien. En fait, moi, c'est ça mon problème, c'est un peu de nuance, un peu de choix et un peu de réflexion, et aussi utilisons aussi les sciences pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un outil de compréhension du monde dans lequel on vit.
Ouais, et qu'en même temps, il y a aussi le fait que je pense que les sciences, ça amène vers du matérialisme.
Ah bah oui, bah ça tue les religions.
On a quand même... Voilà, en fait, le truc, il est aussi là. C'est-à-dire qu'on sait, enfin, la causerie aussi, elle a déjà eu le droit à des mots très gentils sur le fait qu'on soit critique des religions.
Je donne juste un chiffre parce qu'il est intéressant. 93% des scientifiques se disent athées.
Oui, oui,
mais non, il faut s'en rappeler.
Oui, mais ce que moi je veux dire, c'est que en fait, là aussi, ça explique à mon avis le non-intérêt dans certains milieux de la science. C'est parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être oser affirmer. Bah, il y a rien qui démontre l'existence d'un dieu.
Ah oui,
et je veux dire, on a quand même aussi dans nos milieux rebelles, révolutionnaires, vous mettez n'importe quel mot que vous voulez, tant que c'est super.
Dans la société en général.
Oui, dans la société en général, mais sauf que moi, en fait, la société en général, c'est pas que j'attends rien, si j'attends peut-être tout, mais c'est aussi des milieux, on va dire politisés, qui ont un débat d'idées, qui portent des valeurs, des idées, de l'éthique. Bah en fait, même si là, ça chie sur la science, et que ça, à côté de ça, c'est plutôt un peu religiophile, bah en fait, c'est encore une autre explication sur le fait que bah, les sciences, on les laisse crever, parce qu'on se trouve toujours une bonne excuse de jamais affirmer des positions et des points de vue matérialistes et antithéistes. Quoi. Enfin,
alors, juste comme ça, je les redonne. J'avais parlé d'Epsilon ici, qui est un magazine. Alors, personnellement, je le trouve un peu trop, pas assez pointu, mais c'est mon point de vue, parce que peut-être de connaissances scientifiques, au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu trop vulgarisé. Mais c'est très bien pour des gens qui n'ont jamais vu de science. Epsilon. Et de l'autre côté, vous avez un autre magazine qui s'appelle Pour la Science, où il y a du débat scientifique. Alors, ça peut surprendre, mais des fois, il y a des gens d'une page à l'autre qui sont pas d'accord. Mais ça s'appelle le débat scientifique. Et c'est passionnant, justement, de voir que des fois, on n'est pas d'accord, mais que ça veut pas dire que tout est faux ou que tout est vrai. Ça veut dire qu'il y a peut-être un truc entre les deux. Voilà.
Okay.
Allez, musique. Oh, levé, que tu t'es mis à danser, tu sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, dans la causerie, tu viens d'entendre Agnès, ou Agnès, je ne sais pas comment ça se dit, avec 24 Hours. Voilà, 24 heures.
Et c'est un titre. On est obligé de dire le titre en français, parce que notre anglais est tellement mauvais.
24 Hours. Voilà. Et en tout cas, c'était vachement bien. Moi, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je voulais proposer. Voilà. Et bah, du coup.
Il y a un petit côté un peu 2000-2010.
Ouais, ouais, bah, alors ça a trois ans.
Ouais, ouais, non, mais c'est pas.
Je le dis. Et moi, j'aime bien. Je vous invite à écouter tout son album parce que c'est tout comme ça, bien péchu. Ça fait du bien.
Ouais, très bien.
Et toi, Jean-Yves, bah, en parlant de sujet, tu vas nous parler d'un sujet qui est pas trop péchu, mais qui est plutôt
un peu
grave, mais qui est important.
Oui, tout à fait. Ce soir, je vous cause de Le Murmure de la Mer d'Hippolyte, hein, dans la collection BD Reporter des éditions Les Arènes, un titre qui est sorti en avril 2024. Alors évidemment, comme à mon habitude, quelques mots pour connaître davantage l'auteur, le scénariste et illustrateur, donc j'ai le nommé Hippolyte. Alors il a de multiples ouvrages à son actif, alors parfois scénariste, illustrateur, parfois dans une seule de ses deux activités, parfois dans des ouvrages collectifs comme par exemple Légende créole. Et Légende créole, en fait, c'est un ouvrage collectif d'artistes réunionnais. Parce qu'Hippolyte vit désormais sur le Caillou réunionnais depuis une bonne quinzaine d'années, après avoir grandi dans l'Hexagone et fait aussi des études dans une grande école privée lyonnaise de dessin.
Ah oui.
Voilà, je vais pas faire de la pub pour eux, hein, vu que ça coûte un bras et que c'est un peu élitiste. Et il a également collaboré avec différents médias. Alors de ce que j'ai cru voir, c'était surtout autour de ce qui va donner Le Murmure de la Mer derrière. C'était avec Libération et je crois 21, si je me trompe pas. Alors, j'en viens donc à la BD, hein, Le Murmure de la Mer. Alors, murmure, nom masculin, bruit sourd, léger et continu de voix humaine. Mur, parce que dans murmure, les trois premières lettres c'est mur, et dans le titre qui est en blanc, elles sont écrite en jaune, donc ce mur est un petit peu mis en avant, c'est donc un nom masculin, et au sens figuré, bah, c'est ce qui sépare, hein, qui est un obstacle. Et donc cette BD, bah, ce reportage même, j'ai envie de dire, bah, il nous amène à confronter les murs invisibles qui veulent faire disparaître les murmures justement des personnes qui tentent de fuir la guerre, la misère, ou qui tentent tout simplement de s'offrir une vie meilleure en traversant la Méditerranée, en partant du continent africain. Alors cette BD, hein, elle donne une vue de l'intérieur, de ce que certains et certaines, c'est très en vogue en ce moment, aiment à appeler des passeurs ou des complices des passeurs, hein, à savoir les sauveteurs, et pour les autres, ce que certains dénomment des migrants, ou vous savez, ceux dont il faudrait avoir peur parce qu'ils voudraient voler notre pain, notre travail, et, enfin tout ça, vous savez, il faut avoir peur. Ben c'est tout cela avec qui on va être pendant ces plus de 200 pages. Et donc Hippolyte, hein, il embarque 2 mois sur l'océan Viking, bateau de l'association.
C'est un peu mieux comme ça.
Ouais, ouais. Bateau de l'association SOS Méditerranée, que vous devez certainement toutes et tous connaître, ou en tout cas vous l'avez déjà entendu, qui est une association en fait, hein, qui vient en aide aux personnes qui tentent justement cette traversée et qui se trouvent en difficulté. On parle bien de gens qui sont sur un canoë dans une mer déchaînée, quoi. Ou pas forcément déchaînée, mais en tout cas...
Ou
voilà.
Sur des bateaux percés.
Ou des bateaux percés où il n'y a pas de moteur. Ah, enfin,
c'est,
bon.
C'est ouf. Voilà. Parce que les passeurs existent, c'est ceux qui les mettent là-dessus.
C'est tout à fait ça.
Mais c'est pas ceux qui les sauvent.
C'est pas ceux qui
les
sauvent.
Clair.
Alors, enfin, c'est pas aussi simple, parce que il y a ces 2 mois effectivement sur l'Ocean Viking, mais il y a aussi l'avant, la préparation, hein, et l'après, quand Hippolyte retourne sur le Caillou. Et tout cela, il faut aussi le remettre dans le contexte, c'était en période Covid.
Ah bah c'est, donc vraiment, c'était le meilleur moment.
Ouais, c'était le meilleur moment, effectivement. Donc, quand même, je voudrais rappeler, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir à l'oreille quand vous parlez, quand vous entendez parler de ces informations, ou quand vous entendez surtout des politiciens parler de ces informations, c'est que le sauvetage en mer, hein, c'est un principe essentiel du droit maritime. Hein, il est simple et il ne supporte aucune tergiversation. En mer, toute personne en situation de péril doit être secourue sans qu'il y ait à se demander pourquoi elle est là, quelle est sa destination ou ses intentions. la sauvegarde de la vie humaine en mer l'emporte sur toute autre considération. Et ça, vous pouvez mettre n'importe quel gugus politicard, etc. Le droit maritime, c'est ça. Alors, on sauve, on ne laisse personne à la mer.
C'est un droit qui est connu. Et alors, je vais raconter ma life, pardon, mais à une époque, grâce au CE de mes parents, j'ai pu faire des colonies de vacances où on a fait du bateau.
Waouh.
Et non, mais j'ai eu de la chance.
Ah ouais, non, mais
j'ai
jamais avoir
eu beaucoup de chance. Mais c'est un truc qu'on vous apprend quand vous montez sur un bateau. C'est-à-dire que en fait, on vous explique. Le droit maritime, on vous explique le fait qu'on ne laisse jamais un homme à la mer, parce qu'en fait, vous savez, l'expression un homme à la mer, elle vient de là, c'est-à-dire on ne laisse jamais un homme ou une femme à la mer d'ailleurs, en fait, si un bateau est en difficulté, on y va, oui. On se pose pas de questions, on va aider, on va voir si les gens vont bien, voilà. Et pour faire un parallèle, c'est la même chose, mais on l'a oublié, que ce qu'on appelait le code de la randonnée, et c'est pour ça qu'on se dit bonjour quand on se croise en randonnée, parce qu'on dit bonjour ou ça va, parce qu'en fait, en théorie, on essaye d'aller vers les personnes pour savoir si elles ont pas une difficulté, c'est-à-dire voilà, parce que des fois les gens ils marchent, et puis la personne elle dit j'ai plus d'eau, voilà. Oui. En fait, le code de la mer, ça repose sur les mêmes logiques, c'est de l'entraide permanente, c'est comme ça que ça s'appelle. Et oui, effectivement, quand un politique vous dit il y a pas de code de... si en fait ça existe.
Oui, ou même qui classifie les sauveteurs comme de dangereux, je sais pas quoi. En fait, font que respecter le code de la mer, qui est de ne laisser personne à la mer.
Je rappellerai aussi ici le bras de fer entre Darmanin et la SNSM, parce qu'il demandait à la SNSM de ne pas aller sauver il le disait pas comme ça, parce que ça serait vu, mais qu'elles intervenaient sur des trucs qu'elles n'avaient pas intervenu. La SNSM a dit, moi, il y a un appel, j'y vais, point barre.
Alors, voilà. La SNSM, pour celles et ceux qui ne savent pas...
Sauveteurs marins en mer. Voilà.
C'est ça.
Bénévoles.
Bénévoles, ouais, c'est très bien de le rappeler. On retourne sur la BD, donc. Immersion sur l'Ocean Viking, en fait, il nous montre toute la mécanique qui se met en place sur un bateau de secours, et surtout... j'ai envie de dire, tous les individus, les 24 personnes qui font que cette mécanique fonctionne. Les rôles de chacun et chacune, que chacun et chacune épouse au mieux, du capitaine à ceux qui gèrent la logistique, à la chef médecin, mais aussi les règles de vie quotidienne. C'est hyper intéressant parce que, il faut se dire que des mois entiers dans un espace clos, ça nécessite de ne pas laisser les choses s'envenimer. Ça nécessite donc de se parler sans insulte. La drogue et l'alcool sont interdits sur le bateau. Enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant aussi de se dire... Ouais, il y a des règles collectives, en fait, et c'est intéressant aussi de les connaître, je trouve. Derrière les fonctions, les rôles de chacun, il y a aussi les individus. Et là aussi, Hippolyte, avec la discussion, etc., il va aussi en savoir un peu plus et partager avec nous que chacune et chacun ont leur approche de ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils sont sur ce bateau, leurs émotions, mais aussi leur gestion de ces mêmes émotions. Parce que des fois, on peut rien faire, en fait. Ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est dramatique en même temps, mais qu'en même temps, ils n'ont pas le droit de, par exemple, s'approcher des plateformes pétrolières, etc. Mais c'est pas parce que les secouristes n'ont pas le droit de s'approcher des plateformes pétrolières qu'il n'y a pas de bateaux de personnes qui veulent fuir, la guerre, etc., qui va s'échouer vers une plateforme pétrolière. Donc, et là, ils ne peuvent rien faire, quoi. Donc, c'est aussi comment ils gèrent tout ça, chaque individu qui est sur ce bateau, mais aussi leur parcours de vie, leurs expériences de sauvetage déjà vécues. Et c'est vraiment, tout cet ouvrage est autour de l'humain, quoi. Ok. On a là effectivement un paquet d'humanistes qui se mettent au service du collectif et au service de l'humanité. J'ai presque envie de dire, parce que ça permet quand même de se regarder dans un miroir quand on est des humains, chacun chez soi, etc. On peut se dire qu'il y a quand même des gens qui ont un courage vraiment énorme. Et puis, il y a évidemment les actions de sauvetage qui commencent toujours par la veille, sur le large, de jour, de nuit, par n'importe quel temps, on regarde au large si on voit quelque chose. Pour voir, effectivement, mais aussi pour entendre ces murmures, pour essayer de détecter des humains sur une étendue qui est incroyablement ouf. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et il le dessine vraiment très bien aussi, quoi. Des fois, il y a un zoom et... au milieu de vagues, on se dit, on pense apercevoir quelque chose, et c'est tout ce truc de veille qui est absolument important, quoi. Et ils sont aussi en lien avec des gens qui sont dans des avions, etc. Parce qu'il y a aussi des assos, des gens qui sont militants et qui ont des avions et qui vont justement survoler les zones, etc. C'est vraiment intéressant de justement dépasser ce que le discours politicard majoritaire qui nous donnerait soi-disant envie de ne pas s'intéresser à ça. Et donc, quand il faut sauver, là on a encore une autre mécanique qui se met en branle. Chacun et chacune sa position pour pas laisser la place au hasard à l'improvisation. C'est hyper carré. Enfin, vraiment, c'est là aussi, ils en parlent dans le bouquin, ils en parlent entre eux, c'est on ne peut pas improviser. Il faut qu'on soit hyper carré parce qu'on n'est pas à l'abri d'une grosse vague, on n'est pas à l'abri. Enfin, c'est waouh quoi. Bref, pardon, c'est pas très expressif, waouh, mais, non, mais c'est tout ce qui me venait.
En fait, souvent on a du mal à imaginer un bateau, en fait, mais même les marins-pêcheurs, tous ceux qui partent en mer, en fait.
Oui.
Il faut être extrêmement vigilant, carré, savoir ce qu'on fait. Et en fait, quand on dit il y a un capitaine ou une capitaine sur un bateau, c'est pas juste qu'on aime ou avoir un chef, c'est qu'en fait, il faut quelqu'un pour donner le rythme.
Oui.
En fait, le rôle d'un ou d'une capitaine, c'est le rythme. En fait, chef d'orchestre de cet orchestre qui va se mettre en place. Et en réalité, le rôle, c'est ça, c'est-à-dire d'être une sorte de supervision. C'est pas d'être comme dans les films ou je sais pas quoi. Voilà. Non, en fait, le rôle d'un ou d'une capitaine, c'est ça. Et tout le monde est important. Tout le monde a son rôle, tout le monde est important, et surtout tout le monde a répété 100 fois ce qu'il doit faire pour le moment où il va le faire, en fait.
C'est ça. Et puis dans tout ça, il y a ces êtres humains qui sont sauvés, hein, leur arrivée sur le champ de Viking, se sécher parce que c'est horrible, se laver, s'habiller, manger, être rassuré, se soigner, s'enregistrer, et finalement aussi lâcher la pression des dernières heures, des dernières semaines, des derniers mois, enfin respirer et ne plus avoir peur de mourir. On parle de ça, en fait. Et là encore, hein, Hippolyte, il retranscrit ça avec une beauté, une douceur, une sensibilité pour chaque individu. C'est vraiment, c'est très très beau et très doux. Il y a vraiment de ça, quoi. Et il effectue aussi quelques portraits de certaines personnes qui sont accueillies sur le bateau, leur parcours, leur passage par la Libye, un enfer, hein, vraiment, mais aussi leurs aspirations, leurs envies, leurs rêves. Oui, parce que ce sont des humains, hein, comme vous, comme moi, comme tout le monde, en fait. Hein. Et puis, il y a vraiment, enfin, moi, j'ai le souvenir de cette petite Aïcha, c'est super drôle parce qu'il en parle beaucoup aussi, enfin, il en parle en tout cas avec émotion, etc., qui d'un coup se retrouve sur le bateau avec une peluche de... peluche de licorne, et c'est très drôle ce qu'il dit, c'est une image presque surréaliste parce que personne ne sait comment cette licorne est arrivée sur ce bateau, et qu'en même temps d'un coup on retrouve une gamine, une enfant qui maintenant qu'elle est en sécurité elle peut juste vivre son émotion d'enfant, et c'est absolument important, c'est primordial quoi, ne pas nier l'individu de chacun qui est là quoi. Enfin bref, et ce qui est aussi intéressant à voir dans cette BD reportage, c'est aussi l'attitude des états. Hein, tous plus lâches les uns que les autres, tous plus dégueulasses les uns que les autres, avec une absence totale en fait de toute humanité. Hein,
et une négation du droit maritime là aussi.
Et une négation du droit maritime. Et justement, il nous démontre, hein, et il explique très bien comment les États se défaussent de leurs responsabilités, ou pire encore, comment ils font tout leur possible pour empêcher à ces sauveteurs de tendre la main et d'empêcher à des personnes de mourir, d'être englouties par la mer. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand on a des Meloni et autres qui font tourner des bateaux ou qui bloquent des bateaux. On a aussi eu le cas en France, hein, qui ont mis des semaines pour se... En fait, ça veut dire que plus ils tournent en rond, déjà, ça leur coûte un pognon de dingue. Hein.
Et puis il faut de l'essence.
C'est le budget, je crois que c'est plus de 20 000 euros par jour pour un bateau comme ça. Hein. C'est-à-dire que il faut de l'essence, etc., etc.
Des vivres, de l'essence.
Et que tant qu'ils tournent en rond, qu'ils sont bloqués dans un port, ça veut dire que au large du port, pardon. Ça veut dire autant de temps perdu où il n'y aura plus personne pour sauver celles et ceux qui sont en train d'essayer
de traverser.
De traverser,
et pour
oui.
Pour certains, de s'échouer.
C'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment absolument incroyable, quoi. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on parle de dizaines de milliers de morts dans la Méditerranée. Hein.
Le plus grand cimetière, il est là, en fait.
C'est ça. Et des dizaines de milliers de morts, malgré les sauvetages qui peuvent se faire. Ouais. Hein. Donc, ok. Et encore, on parle de chiffres, on a plein de morts qu'on ne retrouvera jamais, qu'on ne saura jamais qu'ils ont été mangés par la mer, quoi. Enfin bref. Et au milieu de tout ça, y a aussi Hippolyte, hein. Ses pensées, ses dilemmes, ses craintes, sa quête. ou encore son fils, qui lui est resté à la, sur le caillou à La Réunion. Enfin bon, je vais m'arrêter là, hein. J'espère juste vous avoir donné, vous avoir donné envie de lire cette BD, de l'acheter et de l'offrir, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est important, c'est qu'une partie des droits d'auteur, je crois que c'est la moitié, revient à SOS Méditerranée. Donc c'est aussi un moyen de soutenir cette association et ses activistes, parce qu'ils ont beaucoup de courage et ils font des choses que je ne pense pas que je serais capable de faire, mais en tout cas, et qui sont nécessaires. Voilà.
Je ne sais pas si tu serais capable ou si on serait capable de faire. Je crois que dans certaines situations, on se dépasse et ces gens se dépassent, en fait.
Oui.
C'est ça qui est juste fou. Oui. C'est qu'en fait, c'est là qu'on voit que l'humanité, des fois, et l'humanisme qui peut pousser les personnes, fait qu'ils font des choses qu'on penserait impossible.
Oui, parce qu'en même temps, Hippolyte lui-même, en fait,
il pensait pas y arriver.
Parce que lui, il pensait. Mmh. Au départ, c'était croquer ce qui se passe sur le bateau, et en même temps, il a aussi ses dilemmes. C'est-à-dire qu'il sait que lui, après, il rentre chez lui.
Il y a un journaliste télévisé qui en avait très bien parlé. Alors je ne connais pas son nom, je connais son prénom, qui s'appelle Abdassal et qui est dans Quotidien, je crois, de mémoire, qui avait fait un reportage. Il était parti 15 jours avec l'Océan Viking et il en avait parlé en revenant. Et en fait, ce qu'il disait était fou parce qu'il disait que c'était la première fois qu'en tant que journaliste, il s'est senti utile et inutile en même temps. C'est-à-dire, il était utile parce qu'il fallait montrer ce qui se passait, la vie, la dérive qu'il y a aussi autoritaire des États qui font que l'Ocean Viking avait tourné quand il était dessus, avait tourné, je crois, pendant 8 jours
au
large,
c'était juste
dingue. Et qu'ils disaient, mais en fait, tout le monde disait, mais pourquoi est-ce qu'on nous bloque? Et on les bloquait justement pour qu'ils n'aillent pas chercher d'autres personnes, donc laisser mourir d'autres personnes. Et aussi pour se dire, comme ça leur coûtera et ça va tuer l'association, parce que c'est ça qui est derrière aussi. Et moi, j'avais beaucoup aimé quand il disait qu'il avait été utile pour le montrer et inutile parce qu'il trouvait qu'à côté des gens de l'Ocean Viking, il était que dalle. Il disait, mais moi, je suis rien, en fait, je suis un journaliste et je voyais des gens, en fait, qui sortaient des gens de l'eau, qui les rassuraient, qui leur parlaient, et en fait il disait c'est juste fou, quoi. Et j'ai pas lu la BD, mais je trouve que dans ce que tu dis, on ressent un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut des gens pour dire et pour écrire. Et moi, je trouve justement, je l'avais écrit quelque part, je trouve que c'est les gens qui disent aujourd'hui, qui montrent ça, c'est hyper important. Et moi, je le dis, les gens qui de l'Ocean Viking qui vont sauver des gens, c'est les justes de notre époque. Mmh. C'est-à-dire, c'est ceux qui refusent ce que les États laissent faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui disent, non, en fait, c'est pas parce qu'on me dit il faut pas, je vais le faire quand même, parce qu'à un moment donné, il y a des êtres humains. Et c'est des justes, ces gens-là, vraiment. Mmh. Et donc, en fait, à un moment donné, il y a un vrai, je trouve, intérêt à ce que ça passe par plein de médias.
Parce qu'il
faut vraiment qu'on le connaisse, la BD, les livres, les écrits, les films et tout ça. Et moi, je vais vous le dire, devenez des fichiers S comme tout le monde, donnez à SOS Méditerranée, parce que vous vous souvenez, à une époque, Darmanin, il disait que tous les gens qui aidaient ces associations seraient fichés parce que, alors peut-être pas S, mais ils seraient fichés parce qu'ils aidaient des pasteurs. Alors, allez-y. Mais montrer à l'étage, même si c'est pas beaucoup de sous, donner 1 euro, donner 4 euros, donner un peu, juste pour montrer qu'on est plein à les soutenir. Parce que ça aussi, c'est une façon, à un moment donné, de dire, en fait, on est plein à les soutenir et on est d'accord avec ce qu'ils font. Et c'est hyper important, vraiment.
Yes. Bon, ok. Vu que vous me poussez encore, je vais te dire un dernier mot sur l'illustration et la mise en page. Alors, c'est des super beaux dessins qu'on pourrait croire à l'aquarelle, mais de ce que j'ai lu, de ce qu'il disait, c'est que lui, il peint à la gouache, mais il y a vraiment des effets d'aquarelle qui sont très très beaux. C'est aussi entrecoupé de croquis, donc il partage en fait ses carnets de croquis, mais aussi de photos. Et c'est étonnant, c'est original, et c'est pas du tout désagréable, c'est juste original. Et en même temps, ça nous permet de voir des humains là, vraiment en photo. On n'y est pas, mais en tout cas on est avec eux ou ils sont avec nous, je sais pas, en tout cas donc le livre, il se termine aussi avec un historique justement sur l'Ocean Viking. Une occasion supplémentaire pour comprendre que les criminels, en fait, ils sont pas sur les bateaux, ils sont bien dans les salons dorés des palais présidentiels et des assemblées européennes, et je me permets, et qu'il y a aussi des complices, c'est ceux qui les élisent, en fait. À un moment donné, quand on vous pose un bulletin de vote dans une urne, vous soutenez une politique comme ça. Alors peut-être que vous êtes auditeur et que vous soutenez cette politique-là, et j'ai envie de vous dire, allez écouter CNews ou autre, et arrêtez de faire croire que vous êtes rebelle, vous êtes juste un petit sous-fifre de ce système dégueulasse.
Ou lisez Murmure et vous voterez peut-être mieux la prochaine fois.
Ouais, ou peut-être plus. Donc voilà, je vais juste, encore une fois, merci à Hippolyte et à SOS Méditerranée d'avoir ouvert aussi quand même le truc, parce que ils le disent en préparation, c'est que ils avaient un peu peur aussi de pas trop en dire, parce que les États se servent en fait de toute information, et disaient les États peuvent se servir des émotions des gens qui sont sur les bateaux. Donc ils avaient un peu une crainte, et qu'en même temps, je comprends qu'on ait cette crainte face à quelque chose d'autoritaire que sont les États, mais je pense qu'il faut aussi que chacun et chacune de nous puisse voir ça, voir que en fait c'est des semblables à nous qui sont sur ce bateau, qui sauvent et qui sont sauvés. Et que ça, c'est absolument important. Et cet ouvrage est vraiment beau et intéressant. C'est donc voilà. Je le rappelle, c'est donc Le Murmure de la Mer d'Hippolyte aux éditions Les Arènes. Et je rappelle une dernière fois qu'une partie des bénéfices est reversée à SOS Méditerranée. Voilà. On passe à la musique ?
Allez,
on y va.
It's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But I'm saying it and I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. This feeling, just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today in the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream.
De jazz dans la causerie avec le titre de Samara Joy, Can't Get Out of This Mood. Et si vous voulez l'écouter, sachez qu'elle passe à l'auditorium le 10 mars 2025.
Mais qu'il reste des places.
Il reste des places.
Voilà. Ouais, c'était très bien. Ça change, c'est vrai, de nos playlists habituelles dans la causerie et c'était très agréable.
Ben oui, merci Clara pour ce choix.
Je croyais à New York. Enfin bon, bref.
Ah, c'est pour ça que t'as sorti du whisky.
un gros cigare. Gros cigare. Et...
Ouais, c'est parti, quoi.
On n'est pas du tout dans les clichés.
Non.
En même temps, les Français mangent des baguettes.
Ouais.
Avec le béret. Enfin bon.
Ouh là là.
Ouais. Enfin bon.
Non mais alors, moi je vais quand même rappeler que bah, juste dire qu'il n'y a pas de brève, voilà. Ah oui. Juste dire que si vous allez manifester, bah, essayez de savoir pourquoi quand même, c'est mieux. Voilà. Et en tout cas, juste dire qu'on vit une drôle de période, effectivement, que tout le monde nous parle de coup d'État, coup d'État, coup d'État. Alors ça s'appelle la 5ème République. Donc allons-y, marchons contre la 5ème République. Et on se fera du plaisir. Et puis arrêtons un petit peu d'attendre des tribuns et compagnie. Mmh. Et dépassons un peu tout ça et organisons-nous nous-mêmes. Sinon, pour écrire à la causerie, c'est lacauseriecanu@gmail.com. La causerie canu tout attaché en miniature, en minuscule, parce que on n'a pas
sinon
encore
tu
ça.
Tu peux arrêter de parler.
Après, sinon, tu peux aller sur le blog. À blogs.radiocanu.org/lacauserie. Après, tu peux aussi nous trouver sur Facebook. Et là-bas, on fait juste de la promo, donc ne nous écris pas là-bas. Après, si tu veux aussi nous trouver pour nous écouter, tu peux nous trouver sur les podcasts. Ça, tu vas sur n'importe quel truc qui a des podcasts, tu tapes La Causerie Canu, normalement, tu vois notre logo avec, tu sais, la radio avec des ailes. Et du coup, bah, c'est nous. Donc tu nous écoutes parce que c'est sympa ce qu'on fait quand même. Et bah oui, un peu d'auto-promo, non, je veux dire. En plus, il y a du jazz.
On peut faire l'auto-promo sans être autoritaire.
Voilà. Oh là là, autoritaire, tu sais ce que j'ai dit, nous, tu nous écoutes. Non, c'était juste une recommandation.
Très appuyée, la recommandation. Et non, et alors, je le fais parce que il y a des copains du Canu Info du jeudi qui l'ont fait. Je trouvais que c'était une très bonne idée parce qu'on est au mois de septembre. Il y a peut-être des nouveaux auditeurs, auditrices, des étudiants, étudiantes, etc. qui arrivent, qui ont peut-être tourner le bouton de leur radio, le vieux quoi. Alors, tout le monde nous écoute via les téléphones.
Sur leur poste à galène.
Non, bah en fait, quand même, rappeler que Radio Canu, ça fait plus de 40 ans qu'elle est autogérée. Nous n'avons pas de salariés, nous n'avons pas de publicité. Il n'y a que des amateurs et des amatrices et des amateurs de la radio et des adorateurs, on va dire en tout cas de la radio, que la radio est ouverte à tout le monde. Évidemment dans le cadre des règles, on va dire,
de la
charte de Radio Canu, des valeurs que Radio Canu porte et que les animateurs et animatrices portent, et que donc si toi, auditeur, auditrice, tu dis tiens, j'ai envie de me lancer dans une émission, et ben c'est tout à fait possible. Tous les mardis soirs de 19h à 20h, il y a la programmation, c'est là où bah, nous aussi on y a été, pour proposer un projet d'émission, etc. Il faut emmener une maquette, si tu as la possibilité de le faire, ça se fait très bien même avec un portable, etc., pour donner une idée de ce que vous voulez faire. Et puis, potentiellement, peut-être que vous pourrez venir dans Radio Canu faire votre émission. Donc voilà, c'est quand même se rappeler que des radios associatives sans salariés, qui ne vit que par l'autogestion, etc., se fait très rare dans le paysage radiophonique français, sans dénigrer les autres associations radiophoniques, hein, c'est pas du tout le propos, mais... Voilà, vivre vraiment sans salarié, etc., c'est pas toujours facile, ou en tout cas, on pourrait tomber des fois dans la facilité d'avoir un salarié, ce que Canu ne fait pas depuis 40 ans. Donc c'est un média aussi à soutenir. Voilà, et puis des fois, si vous passez devant Canu, il y a peut-être des grilles, des programmes que vous pouvez trouver aussi sur le site internet de la radio. Donc écoutez, partagez, et puis vous pouvez aussi avoir des stickers s'il y en a, etc., etc.
Ça fait 47 ans.
Oui, j'ai dit 40 et quelques années.
Oui, mais 47 ? La radio à mon âge, je le sais.
Ouais. Voilà. Je voulais pas appuyer là-dessus. Donc, allez, nous on va se quitter quand même parce qu'il est largement l'heure. Ouais. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, bah, à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. Et comme vous l'aurez compris, il y a plein d'autres émissions sur Radio Canu. Plus de 60 émissions.
Il y a même des nouvelles qui arrivent.
Et même des nouvelles.
Il paraît qu'aujourd'hui, il y avait Futur qui est arrivé, que nous n'avons pas écouté, hein, mais qui est arrivé aujourd'hui et qui était de 20h à 21h, je crois.
Ok. Et donc voilà, Radio Canu, c'est très varié. Il y a plein de sons différents, plein de voix différentes aussi, et des idées assez différentes aussi par endroit. Et donc voilà. Donc nous, la causerie, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h sur le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. On se quitte évidemment en musique. Après le jazz, on va partir sur quelque chose de presque un petit peu classique, avec un nouvel extrait du tout prochain album de Francesca Guccione. Le titre, c'est Springs of Time. Et ben là, vraiment, on vous conseille de vous poser tranquille. On s'écoute ça. on va tout doucement vers la nuit. Enfin bon, bref. Vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Et ben voilà, on se quitte en musique. On vous dit à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao.
Bisous, salut.
Ciao.